chanter tes louanges, de t'adorer, de te glorifier. Seigneur, nous aurons l'éternité pour le faire. Mais nous pouvons attendre de le faire là-haut, Seigneur. Tu as déjà rempli nos cœurs de louanges, d'amour pour toi, pour un tel sauveur. Comment ne pas chanter l'amour de la croix? Comment ne pas chanter le cantique de l'agneau? Tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton sang précieux. Et tu nous as fait asseoir avec toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire sur ton trône. Comment ne pas t'adorer? Toi qui t'es sacrifié pour nous pécheurs et rebelles, comment ne pas t'aimer, comment ne pas te louer, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu de recevoir l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Alléluia.
Selon ta volonté, selon ton bon plaisir. Seigneur, c'est toi le maître de l'univers. Tu tiens nos petites vies dans ta main. Que sommes-nous devant toi? Et pourtant, tu nous aimes.
Amen.
Et pourtant, tu as été abaissé jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Tu as quitté ton ciel de gloire pour descendre sur cette terre infâme, souillée.
Alléluia.
Oh Seigneur, c'est vers toi que nous levons les yeux. Et c'est toi que nous voulons entendre nous parler ici. Seigneur, nous voulons te dire par le Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Écoute. Et nous voulons avoir une oreille attentive à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Sois honoré, sois loué, sois aimé par nous tous, Seigneur. Amen.
Nous asseoir. Restons dans la présence du Seigneur. Seigneur, lorsque nous t'adorons, c'est un peu du ciel qui vient au milieu de nous. Merci, Seigneur. Oui, nous avons besoin de vivre dans ta présence, de t'aimer, de t'adorer. Digne es-tu éternellement, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Seigneur.
Amen. Merci, Seigneur.
Amen.
Merci, Seigneur.
Merci,
avant d'écouter, sache que je voudrais apporter, Dorothée va apporter quelques témoignages de guérison de la puissance de Dieu pour montrer que notre Sauveur est vivant, il est puissant et compatissant, et pour que notre amour pour lui soit toujours. Il est vraiment ému de compassion. Bien souvent, nous nous faisons de fausses idées sur notre Seigneur. Nous avons fabriqué un Jésus à notre image.
C'est vrai.
Et voilà pourquoi nous sommes dans la confusion. Il nous faut le voir tel qu'il est lui, dans les évangiles, dans sa beauté, dans sa splendeur. Il est incomparable. Il n'y a rien d'injuste en lui. Tout est parfait dans ses voies.
Nous ne voulons pas oublier qui est le Seigneur. Le Seigneur est descendu sur cette terre. Il s'est laissé clouer sur une croix. Et c'est là que tout s'est passé. Seulement, il n'est pas resté sur cette croix. Il n'est pas resté dans la mort. Il a vaincu la mort.
Amen.
Et si nous vivons aujourd'hui, puissions-nous vivre par lui, pour lui, en lui, et le glorifier par notre vie. Je ne pourrai jamais trop être reconnaissante au Seigneur pour ma propre guérison qu'il m'a accordée. Il y a bientôt, pas loin de 40 ans, j'étais jeune et j'étais en train de mourir au Tchad en Afrique comme missionnaire. Et si je vis aujourd'hui, je peux dire que c'est parce que le Seigneur m'a donné un sursis. Ma vie ne m'appartient pas et la vôtre non plus. Car si le Seigneur voulait à l'instant même vous enlever le souffle, il pourrait le faire aussi bien et nous tomberions morts. Et je sais que si je vis, c'est parce que le Seigneur m'a rendu la vie à ce moment-là. Nous étions missionnaires en Afrique, au Tchad et au Centrafrique, en République centrafricaine. Et j'ai été atteinte d'une crise de paludisme aigu et d'une hépatite virale à la fois. Alors vous savez, quand vous avez ces crises-là, vous avez des fièvres, ça monte à 40 degrés, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, et ça vous détruit. Il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme, malgré qu'il n'y a pas de médicament assez efficace pour enrayer ce fléau aujourd'hui encore. Ça tue beaucoup de gens en Afrique, et moi j'étais aussi, donc vraiment à l'article de la mort, et en plus de cela, j'avais une hépatite virale. Je ne pouvais plus manger depuis 10 jours, et je ne pouvais plus boire depuis 3 jours. Alors sous le soleil tapant africain, je vous assure que vous ne survivrez pas longtemps à ce régime-là. Mais le Seigneur était là. Il veillait sur moi et sur ma petite vie. Nous avions à l'époque 2 bébés, 2 petites filles. Et le Seigneur est venu me chercher, je dirais, dans la fosse. Je me sentais descendre dans la mort. Je sentais la mort venir. D'ailleurs, déjà, les mouches commençaient à me couvrir. Donc, c'était vraiment les derniers instants. Et à un moment donné, nous nous sommes on m'a emmenée dans une petite ville proche pour que tous les missionnaires se réunissent. Ils voulaient encore m'hospitaliser le lendemain. Et nous nous étions réunis, ils étaient réunis autour de moi, dans une maison africaine. Et moi, j'étais dans une pièce voisine, en train de mourir sur un lit de camp. Les autres missionnaires étaient dans la pièce à côté. Et là, sur mon lit de mort, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Crois-tu que je peux te guérir ?» avec une petite pointe d'humour encore dans un moment comme celui-là. Et puis j'ai dit « Bien sûr, Seigneur, je crois que tu peux me guérir, mais je n'en ai même plus la force. » C'était juste un petit dialogue entre le Seigneur et moi. « Je n'en ai même plus la force, Seigneur. » Alors j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi alors un peu de force pour que je puisse croire. Vous savez, vous pouvez en arriver à une extrémité telle que vous ne pouvez plus ni prier, ni penser, ni rien du tout. Là, vous dépendez vraiment du Seigneur et des autres. Je le sais parce que je suis arrivée à cette extrémité-là. » Et puis, il dit « Oui, Seigneur, je crois. Je n'ai même plus la force. Alors, donne-moi un peu de force. » Et le Seigneur m'a donné exactement ce que j'avais demandé. Juste un peu de force. Pour me traîner en bas du lit, j'avais 27 ans à l'époque, alors voyez un peu, j'étais jeune, hein. Je devais pouvoir marcher, mais je ne pouvais plus marcher non plus. Hein. Et je me suis traînée par terre, sur le sol, jusque dans la pièce voisine où les autres missionnaires priaient pour moi. Et je leur ai dit, « Jésus va me guérir, il m'a parlé. Faites-moi l'onction d'huile, selon Jacques 5, et le Seigneur va me guérir. » Alors tous les missionnaires se sont rassemblés autour de moi. Ils m'ont fait l'onction d'huile, ils m'ont imposé les mains. Et au moment où tous nous élevions notre voix vers le Seigneur, la puissance de Dieu est descendue du ciel quelque part et a traversé tout mon organisme, de la tête jusqu'aux pieds, comme un courant de 10 000 volts qui ne fait pas mal du tout, qui ne vous tue pas, mais qui vous reconstruit. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a reconstruite parce que je ne pouvais plus marcher, rien du tout. J'étais jaune comme un citron, la peau jaune, les yeux jaunes, tout était jaune et j'étais en train donc de mourir. Et là, à l'instant même où la puissance de Dieu a traversé mon organisme, je me suis levée en sautant. Je suis guérie. J'étais encore jaune comme un citron. Je suis guérie. Je suis guérie. Alléluia. Suite à ça, mon estomac n'avait rien mangé depuis 10 jours, rappelez-vous. Je vomissais tout. Tout ressortait avant. Hein. Même l'eau que je buvais ressortait aussi. Et même la bile, même le foie, la bile du foie sortait avec. Et là, c'était le soir qu'on a prié. Le lendemain matin, j'ai pu manger un petit déjeuner complet. Café au lait, beurre, confiture. Vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui est malade du foie, c'était du poison. Mais le Seigneur m'avait guéri, je n'étais plus malade. Le Seigneur m'a entièrement guéri. Alléluia! Et je veux le remercier aujourd'hui encore devant vous de cette expérience qui a été le début de ce que Dieu fait aujourd'hui dans ma vie et au travers de ma vie. Parce que ces derniers temps particulièrement, le Seigneur s'est servi de moi pour aider, pour venir en aide à des personnes qui étaient mourantes, comme moi, et que le Seigneur a touché. Et je vais vous parler d'une femme qui, ici à Gatineau, ici au Canada, à Gatineau. Ça s'est passé il y a quelques années en arrière, lors d'une de nos tournées ici. Le Seigneur me donne des paroles de connaissance, et au travers de ces paroles de connaissance, il guérit. Et nous nous trouvions dans une église à Gatineau, que certains connaissent ici. Et après le message de Samuel, je donne les paroles de connaissance que le Seigneur me donne. Et le Seigneur touche des malades. Et j'ai dit, parmi certaines paroles de connaissance, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui est atteint d'une grave décalcification des os. Et je ne savais pas que c'était pire que cela, que seulement une grave décalcification, mais qu'il s'agissait du cancer des os. Et j'ai dit, le Seigneur étend sa main sur cette personne et la guérit. Et j'ai donné encore quelques détails sur la situation de la personne. À la fin de la réunion, un homme jeune homme plus ou moins, est venu me voir et m'a dit, cette parole-là, c'est ma mère. Je la prends pour elle. Je la prends pour elle. C'est exactement la situation de ma mère. Et sa mère n'était pas là. Elle était dans son lit à la maison, en train de mourir du cancer des os. Du cancer des os, le cancer le plus douloureux qui soit. Et cet homme a dit, j'ai hâte d'aller voir à la maison ce qui s'est passé. Il était dans la foi. Quand le Seigneur parle, il faut prendre. Sinon, ça passe à côté. C'est vous qui avez manqué d'obéir. C'est vous qui avez manqué de prendre. Alors je vous exhorte, si le Seigneur vous parle aujourd'hui, prenez. Saisissez-vous des promesses. L'homme est rentré à la maison. Il a trouvé sa mère debout. Elle était mourante, rappelez-vous, du cancer des os. Et elle était debout, une dame de 74 ans, debout. Et 3 jours après, elle faisait ses courses dehors. Et 3 semaines plus tard, elle faisait son déménagement, ses boîtes, toute seule, à 74 ans. Et cette dame s'est investie dans l'église davantage. Elle sert le Seigneur aujourd'hui. Et elle va bien toujours. Et le Seigneur en a été glorifié. La foi des chrétiens de cette église en a été fortifiée, celle du pasteur, sa propre foi aussi. Voyez, le Seigneur n'est pas limité. Toute puissance lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Toute puissance. Et c'est à la croix que tout cela s'est passé. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est dans ses meurtrissures, il a assez souffert. Et puis, un dernier témoignage pour ce matin. Nous étions comme pour vous dire que le Seigneur connaît toutes choses. Il sait exactement où vous en êtes, où j'en suis. Et tout ce qui passe, tout ce qui se passe dans notre être, y compris notre corps aussi. Nous étions en Belgique et nous étions invités pour un séminaire pour les couples, les foyers, la relation de couple, le rôle de l'homme, le rôle de la femme dans le couple. Donc, nous n'enseignions pas sur la guérison, nous enseignions sur le couple. Mais le Seigneur connaissait la détresse d'une femme qui est venue là-bas. C'est une dame qui souffrait depuis des années, terriblement, terriblement, de migraines chroniques, mais tellement, tellement qu'elle avait envie de se taper la tête contre les murs, elle avait envie, elle ne tenait plus, c'était intenable, elle vomissait, enfin tout ce que les migraines peuvent apporter. Et cette dame, en venant à la réunion, avait crié au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose parce que je ne peux plus vivre et je ne veux plus vivre. » Elle pensait même qu'elle voulait se supprimer. Mais la souffrance était tellement intenable qu'elle a crié au Seigneur, « Seigneur, interviens, aide-moi. » Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alors, le Seigneur m'a poussé à dire, dans ce séminaire pour les foyers, m'a poussé à dire, il y a quelqu'un ici qui souffre d'horribles migraines, elle n'en peut plus, enfin j'ai exactement décrit sa situation sans le savoir, je n'avais jamais rencontré cette dame. Alors cette dame, elle était à sa place, je la vois encore, elle s'est levée, elle s'est mise à pleurer devant tout le monde. Et c'était des hommes d'affaires et des gens bien placés. Mais elle ne s'est pas gênée. Elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, tu m'as répondu, tu m'as entendu. Et les douleurs sont parties immédiatement. Elle a été complètement délivrée. Alors nous voulons donner toute la gloire à notre Seigneur, auquel tout est possible. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part du Seigneur? Il n'y en a pas. Alors nous pouvons nous attendre à lui. Et nous voulons maintenant écouter ce qu'il a à nous dire au travers de sa parole. Il va nous enseigner aussi. Mais préparons notre cœur toujours. Continuons de préparer notre cœur à recevoir ce qu'il veut nous donner. Car après le message, je donnerai encore ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ta grande compassion. Merci pour ta parole aussi. Seigneur, bénis cette méditation, qu'elle corresponde aux besoins
des personnes qui sont là. Nourris tes brebis, tes enfants. Merci parce que tu es là, toujours près de tes brebis, et tu veux les conduire dans de verts pâturages. Tu veux les restaurer, tu veux leur faire du bien. Encore une fois, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, car tu es tout pour nous, Seigneur. Parle, tes serviteurs et servantes écoutent. Nous voulons faire ta volonté, et ta volonté seule. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est à l'œuvre, d'une manière ou d'une autre, lorsque nos cœurs sont ouverts. Il peut faire de grandes choses. Et il veut, dans ces temps de la fin, tout particulièrement, fortifier la foi des chrétiens. Amen. Beaucoup de foi sont ébranlées. Beaucoup de maisons s'écroulent. Il y a des tempêtes actuellement un peu de partout, n'est-ce pas? Et cela commence à marquer un peu notre monde. Le Seigneur nous a prédit toutes ces choses. Mais à côté de ces ouragans, de ces tempêtes de la nature, il y a aussi beaucoup de tempêtes dans le cœur des gens. Mm-hmm. Et aussi dans le cœur des chrétiens. Car malheureusement, beaucoup de vies chrétiennes s'écroulent aussi. Beaucoup commencent bien, mais finissent mal. Mm-hmm. Et même très mal. Ce n'est donc pas le tout de bien commencer. Il faut aussi bien finir. Des multitudes de chrétiens ont bien commencé. Mais vous ne les voyez plus. Ils ne sont plus là. Pour une raison ou pour une autre. En tout cas, la raison principale est celle-ci. C'est qu'il n'y avait pas de fondement. La maison était bâtie sur le sable. Et j'aimerais juste qu'on lise cette parabole du Seigneur dans Luc chapitre 6, verset 46. Et en retirer quelques leçons importantes. Comment avoir une foi inébranlable? Voilà le titre du message. Comment avoir une foi inébranlable? Cela est possible si nous faisons les choses comme le Seigneur le veut. Luc 6, 46, c'est Jésus qui parle et qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. S'il fait ces trois choses, voyez-vous, il y a trois choses, on y reviendra tout à l'heure. Qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Trois choses importantes. Il est semblable à un homme, dans l'évangile de Matthieu, il est dit à un homme sage, à un homme prudent. Un homme sage ou prudent qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Voyez-vous, les tempêtes arrivent. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ah, c'est réjouissant parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, donc c'est l'insensé, le fou dans certaines versions, c'est le fou, ou l'insensé, qu'est-ce qu'il fait l'insensé? Il entend et ne met pas en pratique. Et il est semblable à quoi? À un homme, donc insensé, qui a bâti une maison sur la terre ou sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et la ruine de cette maison a été grande. Que c'est tragique, n'est-ce pas? Une maison bien bâtie, apparemment, mais qui finit par l'écroulement, par une catastrophe. Et le Seigneur, comme un parfait prophète, connaissant le cœur des hommes, il nous montre comment nous devons faire pour que notre maison ne s'écroule pas. Et nous allons prendre l'image de l'insensé et du sage pour voir comment l'un et l'autre agissent et voir si ce matin vous êtes un sage, quelqu'un de prudent ou alors un insensé, un petit foufou. Parce qu'on peut être foufou dans sa foi. C'est ce que l'insensé était. Et j'ai noté ici une première pensée. L'insensé a une foi aveugle, j'ai noté, une foi aveugle. Notez cela, l'insensé a une foi aveugle. Pourquoi? parce qu'il bâtit sur le sable, sur la terre. On dirait qu'il ne voit pas le sable, on dirait qu'il ne voit rien, qu'il ne voit pas la terre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois rien du tout? Tu es en train de bâtir sur du sable, sur de la terre. Jamais quelqu'un n'a bâti une maison là-dessus. Mais lui, il ne voit rien. Il ne voit rien. Voilà pourquoi il est sot. Il est insensé. Il est fou. Il a une foi aveugle. Et voilà comment sont beaucoup de gens, et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Leur foi est une foi aveugle. Ils croient en n'importe quoi. Et c'est toujours le dernier venu qui a le dernier mot. Et on ne s'inquiète pas pour voir si ce qu'on croit est vraiment conforme à la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Oh, moi je crois. Dans le monde aussi. Est-ce que vous croyez? Oui, oui, je crois. Mais vous voyez bien que c'est une foi aveugle. C'est une foi qui n'a pas de fondement. On croit n'importe quoi. Pourvu qu'on croit, on nous dit. Je ne suis quand même pas un païen ou une païenne, je crois. Mais est-ce que cela suffit? Ça, c'est la foi de l'insensé. Il bâtit sur le sable. Il ne réfléchit pas. Il est aveugle. Autrement dit, pour lui, c'est pas important de savoir ce qu'il croit, pourvu qu'il croit. Est-ce que c'est suffisant? Nous le voyons que ce n'est pas suffisant. Une telle foi fera en sorte que lorsque la tempête viendra, la maison s'écroulera. Donc, il ne faut pas, même beaucoup de chrétiens ont une foi aveugle. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils ne méditent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils écoutent des sermons. Ils écoutent le pasteur, le prédicateur. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de méditation personnelle de la Bible. Leur foi passe toujours par quelqu'un d'autre. Ah, le prédicateur a dit ça. Ah, le pasteur a dit ça. Donc c'est bon. Attention. Ça, c'est un peu déjà un raisonnement d'insensé. C'est bien d'écouter les prédications des autres, mais nous devons être plus sages que ça. Si le prédicateur se trompe, vous allez être trompé aussi. Ne soyez pas insensé. C'est un homme. Et si nous mettons notre confiance dans l'homme, nous serons tôt ou tard déçus. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont une foi aveugle. Je ne parle pas seulement de gens du monde. Mais des gens, des chrétiens, convertis, nés de nouveau, une foi aveugle, ils croient n'importe quoi. Ou alors ils ne croient rien du tout. C'est les deux extrêmes. Mais c'est toujours une foi aveugle. Ils ont bâti sur du sable, sur de la terre. Et ils disent, c'est rien, c'est pas grave. Mais on vous dit, mais attention, c'est pas comme ça. Il faut, c'est pas ça la vraie foi. Ah non, c'est pas grave, c'est rien du tout. Tandis que là, le sage, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a bâti sur le roc. Autrement dit, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas une foi aveugle, il a une foi intelligente. Il sait ce qu'il croit. Donc, il y a là une vérité importante. Le sage sait ce qu'il croit. Paul disait, je sais en qui j'ai cru, je sais. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons, le vrai chrétien sait. Et quelle est la grande différence entre l'insensé et le sage? C'est que l'insensé met sa confiance dans des paroles humaines, tandis que le sage, lui, met sa confiance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est là la grosse différence, la très grande différence. Aucune parole humaine, aucune sagesse humaine ne pourra vous garder debout lorsque la tempête viendra. Seulement la parole de Dieu vous permettra de rester debout. Le sage sait, il connaît. Mais cette connaissance vient de la parole de Dieu. C'est cette connaissance de la parole qui vous donne des convictions. Amen. Cette parole, c'est une parole de vie, c'est une parole de vérité. Lorsque nous la lisons, lorsque nous la croyons, elle produit en nous quelque chose de merveilleux. Elle produit des convictions, des assurances. Quand on croit la Bible, on ne dit pas, je ne sais pas, peut-être que, j'en sais rien, je ne suis pas sûr. Combien de chrétiens sont dans la confusion aujourd'hui? Vous les entendez parler dès qu'ils ouvrent la bouche. Vous voyez, ah, ils sont perdus, ils ne savent pas où ils en sont. Pourquoi? parce que tu as ta tête remplie de pensées humaines, de paroles humaines, de gens, de philosophie humaine, de sagesse humaine. L'insensé est rempli de ces choses-là. Et la parole de l'homme ne pourra jamais enlever cette confusion. Mais le sage, il sait. Il n'a pas une foi aveugle, c'est une voix intelligente. Il sait en qui il croit. Je vous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Le sage, c'est celui qui vient à moi. Écoute mes paroles et les met en pratique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient au Seigneur, qui écoute sa parole et qui ensuite se décide à mettre en pratique cette parole. Donc il n'a pas une foi aveugle. S'il y a une confusion dans votre cœur, cette confusion peut disparaître lorsque la parole de Dieu a autorité sur votre vie. Amen. Mais le problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, ils vous disent, mais monsieur, pasteur, mais moi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ils disent, mais je crois. Mais ils agissent autrement. Ils ne la mettent pas en pratique. La Bible dit ça, mais ils agissent autrement. Voyez-vous la confusion? Ce n'est pas le tout de dire, mais moi je crois au pasteur, tout ce que vous avez dit, je crois ce matin. Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, et vous avez bien vu, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Combien de tourner autour de Jésus, il disait, « Mais maître, Seigneur extraordinaire, jamais quel homme n'a parlé comme toi, Seigneur par-ci, Seigneur par-là. » Ils étaient tous autour de lui en train de faire des courbettes. Ils disaient, « C'est merveilleux, merveilleux. » À un moment donné, le Seigneur s'est presque fâché, il a dit, « Arrêtez maintenant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Ce ne sont pas vos éloges que je veux. Je veux votre obéissance à la mise en pratique de ce que je dis. Sinon, votre maison s'écroulera. La tempête viendra. Elle s'écroulera un jour. Les chrétiens, une fois aveugles, ils ne savent pas. Seule la parole de Dieu vous donnera cette assurance qu'il faut lire, méditer et mettre en pratique. Une autre différence maintenant entre l'insensé et le sage. L'insensé a une foi facile. Il cherche une foi facile. Soulignez une foi facile. Tout à l'heure, c'était quoi une foi aveugle. Maintenant, c'est une foi facile. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le sable. Hein? Est-ce que c'est compliqué de bâtir tout de suite sur le sable? Non, on vient, on amène les choses, pop, dessus. Ça va vite, c'est facile. Tandis que le sage, lui, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, il a creusé. Vous avez remarqué, deux fois il est dit, creusé, creusé, profondément. Pour le sage, sa foi n'était pas si facile que ça. C'est une foi qui lui coûte quelque chose. Qui lui coûte quelque chose. Tandis que l'insensé cherche une foi facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'insensés, même parmi les chrétiens. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tout se passe bien. Ils ne veulent pas de difficultés, pas de combats, pas de tribulations, rien. Ce sont les chrétiens, alléluia. Moi, je suis un chrétien, alléluia. C'est bien d'être un chrétien, alléluia. Mais pour que ce chrétien, alléluia, puisse tenir le bout et aller jusqu'au bout, il faut aussi être un chrétien, amen. Vous avez bien compris? Si vous n'êtes qu'un chrétien, alléluia, vous n'irez pas loin. Est-ce que vous êtes fort pour marcher avec sur une jambe, vous? Vous n'irez pas loin. Chrétien, alléluia, une jambe, c'est bon, elle est bien cette jambe. Mais il faut l'autre jambe pour tenir l'équilibre. Alléluia, oui. Seigneur, tu es là, c'est merveilleux, il fait beau, tu m'as béni, tu m'as guéri, c'est extraordinaire, merci, c'est bien, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas que cela. Autre chose va arriver. Et si tu n'es pas un chrétien, amen, tu ne tiendras pas, ta maison s'écroulera. Amen, quand les choses ne vont pas comme tu veux, comme tu penses. Et cela arrivera. Mais lui, l'insensé, lui, il veut une foi facile. C'est tout ce qui est facile. Ils veulent une tonne de bénédictions pour seulement un petit gramme d'obéissance. Ah, ils veulent des tonnes de bénédictions. Mais l'obéissance, c'est pas pour eux. C'est pour les autres, toujours pour les autres. Ça ne marche pas. Ça, c'est l'insensé qui réagit comme ça. Une foi facile. Et cette foi facile, c'est quoi finalement? C'est une foi qui ne change pas la vie de quelqu'un. C'est une foi sans repentance. Voilà la racine de la chose. C'est une foi sans repentance. Parce que Une foi facile ne change personne. Et quand vous voyez un chrétien ou une chrétienne dont la vie n'est pas changée, il ou elle se dit chrétienne, eh bien, ça veut dire que c'est une foi sans repentance. C'est là que le bât blesse actuellement. Beaucoup ont la foi, mais ils veulent une foi facile. Ils veulent bien être sauvés, ils veulent bien être bénis par le Seigneur, mais rien ne doit changer. Sur le sable, tout de suite, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais bâtir. Tu fais rien là-dessus? Non. Moi, je suis pressé, on est pressés. Ils sont toujours pressés. Et ils arrivent toujours en retard. Ils sont toujours pressés, mais ils arrivent toujours en retard. Ah non, mais tu vas pas un peu creuser? Il faut un peu creuser, sinon ça va pas. Non. Pas d'effort. C'est les autres qui doivent faire des efforts, mais eux jamais. C'est l'insensé. Une foi facile. On ne veut pas creuser. On ne veut pas changer son style de vie. Et quand un chrétien n'a pas sa vie changée, ça veut dire qu'il a une foi sans repentance. Parce que la repentance, avant la foi, il y a la repentance. Et la repentance, c'est dire, Seigneur, j'ai vécu loin de toi, j'ai fait ce qui t'a déshonoré, j'ai honte de moi-même. À partir de maintenant, je coupe avec mon passé, je m'en détourne définitivement. Et pas seulement dans une petite chose qui me plaît, mais dans tous les domaines. C'est vraiment un changement de vie. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas ça. Ils veulent être bénis, mais ils ne veulent pas changer. La preuve, c'est que vous les voyez toujours, 5 ans, 10 ans après, les mêmes personnes, si elles avaient une mauvaise langue, c'est toujours une mauvaise langue. Un mauvais regard, le mauvais regard. Le mensonge est toujours là. Et on fait des choses qui déshonorent Dieu. Il n'y a pas de changement. C'est une foi facile. C'est la foi d'un insensé. Tôt ou tard, ça ne tiendra pas. Parce que si Jésus ne remplit pas ton cœur, tôt ou tard, tu seras insatisfait. Seul Jésus peut satisfaire pleinement ton cœur, à condition qu'il vienne pleinement dans ta vie, régner entièrement, prendre toute la place. S'il n'est pas le Seigneur de ta vie, il est le Seigneur de rien du tout. Ce sont des vérités toutes simples que je vous dis. Mais beaucoup de vies chrétiennes s'écroulent à cause de cela. Ils bâtissent tout de suite sur le sable. On n'a pas le temps, il faut une foi facile. Dès que vous leur demandez quelque chose un peu qui les pousse à changer, ou alors à vouloir faire des efforts particuliers, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais cela, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est celle qui vous coûte. C'est celle qui fait que lorsque vous êtes venu à la croix, la repentance a été sincère, définitive. Vous ne jouez plus à l'hypocrite devant le Seigneur. Vous voulez changer de vie. Que c'est tragique de voir certains chrétiens, mais vous êtes constamment en train de leur dire, mais tu dois changer. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu dois changer de vie. Mais quand on vient à Christ, on ne doit plus nous dire de changer de vie. C'est nous qui le voulons. On ne doit pas dire, mais tu dois encore abandonner ça, tu dois encore abandonner. Mais qu'est-ce que c'est que cette conversion? C'est vous qui devez dire, mais c'est fini, je n'en veux plus. C'est terminé tout ça. Je veux vivre une vie nouvelle. Je ne veux pas du rapiéçage. Je ne veux pas du raccommodage. Je veux vivre une vie nouvelle. Quand quelqu'un parle comme ça, je vous assure, vous n'avez pas beaucoup de problèmes avec lui. C'est qu'il veut vivre une vie nouvelle. Il ne garde pas encore quelques cordes avec son passé. Il dit, on ne sait jamais, il ne faut pas être un fanatique. Oui, mais en attendant, si on n'est pas un fanatique pour le Seigneur, vous serez fanatique d'autre chose. Moi, je préfère être un fanatique pour le Seigneur.
Ah oui.
Mais le fanatisme dans le bon sens, qu'une vie change et transformée, une foi aveugle, une foi facile, que le Seigneur nous garde de cela, mes amis. La vraie foi, c'est celle qui nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est une décision qu'on prend. Dieu vous donnera toujours la force de vous repentir, mais vous devez vous prendre la décision. Quand Jésus dit « repentez-vous », il n'a pas dit « priez Dieu pour qu'il vous donne la force de vous repentir ». Mais j'entends souvent des prières « Oh Seigneur, je ne peux pas moi me repentir, donne-moi la force ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit « repentez-vous ». Ça veut dire qu'il est toujours là, il donne toujours la force à quelqu'un de se repentir quand la personne prend la décision de se repentir. Mais si vous ne prenez pas la décision, vous n'avancerez pas. Une foi facile, mes amis, La foi chrétienne n'est pas une foi facile. C'est une foi bénie, c'est vrai, extraordinaire, mais n'est pas facile. Il y a des combats, mais c'est un combat glorieux. Alléluia. Une troisième différence, l'insensé a une foi utopique. Soulignez utopique cette foi. Pourquoi je vous dis utopique? Tandis que le sage, lui, a une foi réelle. Pourquoi je vous dis utopique? Parce que quand il bâtit, il ne pense pas qu'un jour, la tempête va arriver, l'inondation va arriver. Il vit dans un rêve. Il est utopique. Il faut vraiment être, vous êtes d'accord avec moi, il faut vraiment rêver pour bâtir une maison et puis ne pas penser qu'un jour la pluie va venir. Si l'inondation arrive, là, ça va faire des rigoles et tout ça, ma maison va s'écrouler. Il ne pense même pas à ça. C'est une foi utopique. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pense que dans la vie chrétienne, on n'aura pas d'épreuves, on n'aura pas de combats, on n'aura pas de persécutions. Et malheureusement, c'est l'inverse. On n'est pas encore au ciel. Alors si tu as des combats, si tu as des difficultés, mais ne sois pas étonné. C'est l'insensé qui est étonné. Tiens, ma maison s'est écroulée, comment ça se fait? C'est un insensé qui pense comme ça. Elle s'est écroulée. Comment? Tu oses encore te poser la question? Tu as bâti sur le sable et tu penses que... il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est avec toi que ça ne va pas. C'est dans ta tête que ça ne va pas. Tu dois te poser la question et dire, mais la tempête viendra un jour, l'épreuve viendra un jour. Et dans la parabole du semeur, vous savez, il y a un moment donné, la semence, là, ça a poussé, puis ça a séché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Dès que le feu de l'épreuve, de la persécution est arrivé, ça a tout asséché. L'insensé, c'est ça, une foi utopique. Il ne pense pas aux épreuves, aux contradictions, aux persécutions. Si vous êtes vraiment un vrai chrétien, vous serez persécuté. Si vous n'êtes pas persécuté, je doute fort que vous soyez un vrai chrétien. Le Seigneur lui-même, on l'a critiqué. Le Seigneur lui-même, on l'a rejeté, n'est-ce pas vrai? Et le Seigneur lui-même a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. N'est-ce pas vrai? Le disciple accompli sera comme son maître. Si le Seigneur est passé par là, nous passerons aussi par là. Nous devons réaliser ces choses, une fois non utopique, mais une fois réaliste. Seigneur, je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Utilisez vos épreuves pour grandir. Utilisez vos difficultés pour aller de l'avant. Et non pas pour abandonner la foi. Que personne ne vous arrête. Si vous avez compris qu'il y aura un jour des tempêtes, de l'ouragan, des inondations, ne soyez pas étonnés par cela. Utilisez tout ce qui vous arrive pour aller plus loin. Dans la pensée de Dieu, l'épreuve n'est pas là pour vous détruire, mais l'épreuve est là pour vous construire, amen, pour vous façonner, pour vous purifier, pour vous aider à aller de l'avant. Même si le Seigneur utilise certains de vos frères ou de vos sœurs même, malheureusement. Mais le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour nous parler. L'important, c'est qu'on réagisse positivement et qu'on ne se laisse arrêter par personne. C'est le sage, il ne se laisse pas arrêter. La tempête arrive, oh ben, c'était prévu. Mais beaucoup catastrophe, ils n'avaient pas prévu cela dans leur programme. Dans leur foi, ils n'avaient pas prévu cela. Ah, c'est ça la catastrophe. Et c'est là l'insensé. L'insensé, c'est ça. Utopique, il plane. Jusqu'au jour où une tuile lui tombe sur la tête. Ça le réveille un petit peu maintenant. Et il est temps que la tuile tombe sur ta tête pour que tu te réveilles un petit peu. Et tu réalises que la vraie vie chrétienne, c'est un combat. Et que rien ne doit t'arrêter. Combien de chrétiens sont arrêtés maintenant? Ils sont dans la confusion, dans la perplexité. Ils ont perdu leur louange, leur adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui les arrête. À un moment donné, il y a eu quelque chose, quelque part. Et qui dit, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas? Il est temps que tu comprennes. Ces choses vont arriver. Et Dieu te dit, nous savons du reste que... toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia! C'est ça le vrai chrétien, qui ne se laisse arrêter par personne. Il est réaliste. Il y a trop de chrétiens utopistes. Et je termine. L'insensé a une foi superficielle. Superficielle. Soulignez cette foi superficielle. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le sable, encore une fois. Est-ce que ça a été en profondeur? Non, pas de profondeur. Superficielle. Tandis que le sage, lui, a une foi qui va en profondeur. Il a creusé, creusé, creusé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'insensé, lui, ça ne l'intéresse pas d'approfondir sa foi, de grandir avec le Seigneur, de faire en sorte que le Jésus soit vu dans sa vie, qu'il fait tout pour le glorifier. Non, il ne pense pas à tout ça. Lui, c'est simplement être béni et a su un petit train-train dans sa vie spirituelle. C'est tout. Il ne faut pas lui en demander trop. Pas lui en demander trop. Si vous demandez quelque chose, c'est le trop. Vous lui demandez de balayer un petit peu la salle par là. Oh non, non, non. Ou si quelqu'un le critique à cause de sa foi. Oh, tout de suite, il perd la foi. Oh, non, non, non. Tu es chrétien, toi. Oh, non, 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 non. C'est mon cousin. C'est pas moi. Tu t'es trompé. C'est pas moi. Ah, ah bon. Tout est superficiel, en surface. Il n'y a rien en profondeur. Et on veut faire aucun effort, absolument rien du tout. Et c'est pour cela que la maison ne tient pas. Mes amis, ne nous laissons pas arrêter, bâtissons. Allons en profondeur, approfondissons notre foi. Plus nous serons affermis sur le Seigneur, eh bien, plus notre maison tiendra debout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je termine par ces trois choses. Trois racines absolument qui vous tiendront ancrées dans le Seigneur. Il vient à moi. Jésus a dit, le sage est semblable à un homme qui vient à moi. Venir à lui, c'est quoi? C'est avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Voilà, voilà. Tu dois avoir ta communion personnelle. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette communion. La preuve, c'est que quand ils sont seuls, il n'y a plus rien du tout. Quand ils ne vont pas à une ou deux réunions, ces chrétiens-là, vous ne les reconnaissez plus. C'est terminé! Mais qu'est-ce que c'est que c'est une tragédie? C'est une tragédie! Ils n'ont pas eu des réunions régulièrement, comme ils devraient avoir. C'est fini! Il n'y a plus rien! Autrement dit, leurs racines, ce sont les autres. Mais ils n'ont pas de racines personnelles. Jésus a dit, si quelqu'un vient, le sage est semblable à quelqu'un qui vient à moi, qui a des racines personnelles. Vos racines doivent être dans le Seigneur. Et vous devez avoir cette communion personnelle avec le Seigneur. Que rien ne vous arrête, cela. Rien. Vous devriez pouvoir vivre ici, même si tout le monde était païen, et que vous n'ayez plus aucune réunion.
Oui, c'est ça.
Jusqu'à la fin de votre vie.
C'est vrai, ça.
Vous tiendrez debout, parce que la maison est bâtie sur le roc.
Eh oui, c'est vrai. Amen.
Et vous boirez continuellement aux sources de la vie. Mm-hmm. Alléluia.
Oui.
Et rien ne vous arrêterait. Qui viennent à moi, une communion personnelle. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez avoir. Et ensuite, qu'il entende mes paroles. On vient à lui pour obéir à sa parole, pas seulement l'entendre comme cela. Et il faut savoir faire la différence entre les paroles du Seigneur et les paroles des hommes. C'est ces paroles qui vous aident. Les paroles des hommes ne vous aideront pas. Il y a trop de philosophie, il y a trop de doctrines humaines maintenant, même dans les églises, trop de choses qui égarent les chrétiens. On entend beaucoup de choses que Jésus ni les apôtres n'ont prêchées. Et on donne du sable à manger aux chrétiens. Et voilà pourquoi ils sont dans la confusion. Les philosophies humaines ne nourriront jamais personne, mes amis. Jamais. C'est qu'ils entendent mes paroles. Amen. Mes paroles. Ces paroles sont esprit et vie. Nourrissez-vous de cette parole. Nous devons être continuellement remplis de la parole de Dieu. Plus vous êtes remplis de la parole de Dieu, plus vous serez remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu.
Amen.
Et plus on est rempli de cette parole, plus le Saint-Esprit nous remplit aussi. Mais moins vous êtes remplis de cette parole, vous serez vide spirituellement parlant. Vous serez peut-être plein d'idées humaines, de philosophie, de sagesse humaine, de psychologie humaine. Mais tout cela ne nourrit pas la personne. Au contraire, la femme encore plus. Et pour terminer, troisième racine, mettre en pratique. Vous devez mettre en pratique ce que vous entendez. Et pas seulement dire, je crois, je sais, je veux mettre en pratique ce que j'ai entendu aujourd'hui. Amen.
Amen.
En pratique. Amen. Mettez en pratique. Vous n'avez pas l'habitude de louer le Seigneur. Eh bien, allez-y. C'est une question d'obéissance. Louez le Seigneur. Vous n'avez pas l'habitude de demander pardon. Quand il faut le faire, faites-le. Quand il faut pardonner, pardonnez. Quand il y a quelque chose que Dieu vous demande, mettez en pratique. N'attendez pas. Faites quelque chose, obéissez. Sinon, vous ne grandirez jamais. Sinon, la maison s'écroulera un jour. Et qui met en pratique. Voilà les chrétiens qui tiendront ferme dans ces temps de la fin. Et je vous assure, si vous bâtissez votre maison sur le roc, sur Jésus, sa parole, et sur l'obéissance à cette parole, votre maison tiendra debout.
Amen.
Mais c'est merveilleux. Alléluia. Quand une maison tient debout, vous êtes d'accord avec moi, je pensais quand je méditais un petit peu, je disais, quand la tempête, vous avez vu tout ce qu'on voit là, ces tempêtes, en Floride et n'importe où, partout, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez une maison à côté qui tient debout, qui a tenu dans la tempête, et ceux qui sont à l'intérieur sont dans la paix, et ceux de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font? N'ont qu'un désir d'aller là-bas, à l'abri. Voilà le chrétien, ce qu'il doit être aujourd'hui. Une maison qui tient debout dans les tempêtes de ce monde, dans les choses mauvaises de ce monde, et que les autres puissent regarder et dire, voilà, quelqu'un qui vit sa foi, il tient debout, il est passé par les mêmes épreuves que moi, mais il tient debout, non seulement il tient debout, mais il chante encore. J'entends dans la maison là-bas, ça chante. Ça chante, comment il chante? Alors que nous, on est en train de pleurnicher à gauche, à droite, ça pleure partout, et là-bas, il chante.
Amen.
Voilà le ministère de l'Église, d'être un sujet d'espérance. Dans ce monde sans espérance.
Amen.
Mais si nous faisons comme le monde, qu'est-ce que nous avons de plus? Dites-moi un petit peu. Quand vous regardez certains chrétiens, aucune différence avec un païen, aucune différence. Rien. On ne voit pas de différence. Est-ce que c'est un chrétien ça? Pour moi, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui peut dire, autrefois j'étais ceci, maintenant je suis cela. C'est fini. Je vis une vie nouvelle. Je ne veux pas dire qu'on est parfait. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Mais c'est une vie changée. Une vie transformée. On vit ce qu'on dit. Et non pas, on ne reste pas avec ces petites idées comme cela. On ne fait pas l'hypocrite surtout. Et d'autres vous observent. Si votre maison tient debout, vous serez une bénédiction aux autres.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Car si Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour être béni, c'est pour être une bénédiction aux autres. Puisse votre maison, ma maison, tenir debout dans les tempêtes de ce monde.
Alléluia.
Le Seigneur revient. Alléluia. Et d'autres vous observent. Ils vont. S'il vous êtes ferme, vous serez une bénédiction pour eux. Ne vous découragez pas. Bâtissez votre maison sur le roc. Creusez, creusez. Allez en plus en profondeur dans votre vie chrétienne. Arrêtez. Balayons toute cette superficialité qui est là, trop superficielle. Oh, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas... Non, vous serez malheureux en faisant cela. La vie chrétienne, elle vaut la peine d'être vécue quand on est 100% pour le maître.
Amen.
100%. Amen. Alors je vous assure, là, il n'y a plus rien à regretter. C'est la plus belle des vies.
Amen.
Personne ne doit vous arrêter pour marcher avec le Seigneur.
Oui.
Vos racines doivent être en lui. Votre fondement, c'est lui et sa parole. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Que Alléluia, Dieu vous bénisse. Seigneur. Restons
Alléluia,
dans le recueillement quelques instants encore.
Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole.
Merci, Jésus.
De la bénir dans nos cœurs.
Gloire à toi, Seigneur.
Ton Esprit Saint travaille en nous, trouvons-nous surtout des cœurs obéissants.
Alléluia, Jésus.
Qui disent Amen lorsque tu nous parles. Nous voici, Seigneur.
Amen, Seigneur.
Pardonne-nous toute négligence.
Jésus.
Tout ce que nous avons comme foi aveugle, utopiste, superficielle, une foi facile. Seigneur, balaye tout cela de nos cœurs. Que notre vie soit vraiment la vie d'un homme consacré. D'une personne qui, vraiment, a la foi, une foi vivante en toi. Merci Seigneur, fais de nous des hommes sages et des femmes sages qui ont bâti leur maison sur le roc et qui tiendra debout.
Amen.
Jusqu'à la fin. Amen.
Amen.
Restons
Alléluia.
Dans
Restons
encore.
Dans le recueillement.
Merci. Seigneur.
La présence du Seigneur est là.
Gloire.
Et il va agir au milieu de nous.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Le Seigneur m'a montré que il y a une personne dont certaines cellules de son corps sont détruites par une maladie, que certaines cellules de son corps sont mortes. Eh bien, l'Esprit de vie du Seigneur vient sur toi et fait revivre les cellules mortes de ton organisme. Reçois la puissance de Dieu, reçois son attouchement et que toutes cellules dans cet organisme qui sont mortes revivent par la puissance de résurrection du Seigneur Jésus lui-même.
Amen.
Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Celui qui vit, vivra quand bien même il serait mort. Reçois cet attouchement du Seigneur. Toi qui as ce problème, et le Seigneur touche encore quelqu'un qui a un problème cardiaque. Tu as un souffle au cœur. Et le Seigneur te touche ce matin. Tu as de la peine à monter, descendre les escaliers. Tu as de la peine quand tu dois monter une pente. Ton cœur s'emballe sous, tu as un souffle au cœur. Eh bien, le Seigneur enlève ce souffle. Merci, Seigneur, Amen. De ce que tu enlèves ce souffle dans cette personne. Merci, Seigneur, de ce que ce cœur bat normalement à partir de maintenant, parce que Jésus l'a touché. Louange et gloire et puissance à celui qui vit au siècle des siècles, qui est assis sur le trône auquel tout pouvoir a été donné, dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, encore des paroles d'encouragement pour deux personnes qui sont dans une grande épreuve, qui semblent dépasser leurs forces. Voici ce que le Seigneur te dit. Mon enfant, n'oublie pas que je ne suis pas pour toi un sacrificateur qui ne puisse compatir à tes faiblesses. Au contraire, je ressens moi aussi la douleur qui est la tienne et je prie pour toi. Approche-toi donc du trône de ma grâce. Tu es mon enfant et je te donnerai ma grâce qui te suffira pour traverser ces eaux troubles et parfois épuisantes que tu traverses. Ma miséricorde pour toi est grande. Elle te permet d'être secouru dans chacun de tes besoins. Ne suis-je pas pour toi un père, te dit le Seigneur, qui sait compatir à tes faiblesses? Toi qui parfois penses être sans secours, viens donc t'abriter sous mon aile. Je suis pour toi un refuge. Auprès de moi, tu trouveras toujours un baume, un apaisement pour ton âme. Que cette personne qui est dans cette épreuve-là prenne ces paroles de réconfort de la part du Seigneur pour continuer et ne pas se décourager dans cette épreuve qu'elle traverse. Une autre personne encore, ou que le Seigneur exhorte, reste dans ma paix et cette douleur actuelle qui est la tienne s'apaisera. Auprès de moi, tu trouveras cette puissance illimité dont tu as besoin pour vaincre cette douleur qui est la tienne. Continue de crier à moi, te dit le Seigneur. Ça, j'ai trouvé beau. J'aime t'entendre crier à moi, le Seigneur nous dit. Il ne se lasse pas quand on crie à lui. Nous, on pense qu'on le fatigue parfois avec nos cris, mais le Seigneur te dit, je ne me lasse pas de tes cris. J'aime t'entendre invoquer mon nom. Je suis ton sauveur et je t'aiderai toujours et te montrerai le chemin à suivre. Laisse-moi te conduire et tu verras ta voie s'aplanir et se clarifier. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta divine présence. Tu es venu pour réconforter, tu es venu pour exhorter, tu es venu pour guérir et nous te remercions. Parce que tu es la résurrection et la vie. Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Louange, puissance, honneur et gloire. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Tu es grand, majestueux et puissant et tu n'as jamais changé. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et toi qui es découragé pour ce qui s'est passé dans ta vie, je viens aujourd'hui te relever. Lève ta tête vers moi. Regarde à moi. Ne continue pas sur ce chemin de découragement. Je suis venu te rencontrer ici même pour te dire que je t'aime. Malgré ce qui s'est passé dans ta vie, je t'aime encore et toujours. Et je veux t'aider. Je veux te conduire plus loin sur mon sentier. Alors donne-moi ta main. Laisse le chemin du découragement et reprends le chemin de la victoire, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons.